Bonjour à tous. Alors voilà, vous avez deviné le thème, ou alors vous savez lire. Ah, c'est bon, Lucille le prendra après. Alors pour moi, c'était au courant de l'été 2014 que je lisais Éphésiens 5 au verset 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Alors la première partie de ce verset, c'est en fait une citation d'un autre verset qui est dans Genèse 2, et c'est Paul qui le cite et qui fait ce commentaire ensuite, où il le met en comparaison. Il met en comparaison l'attachement de l'homme à la femme avec le projet de salut de Dieu pour l'humanité qui se manifeste au travers du sacrifice de Christ pour l'Église, l'Église qui est son peuple. Alors moi, quand je lisais ça au courant de l'été 2014, je n'étais pas en train de lire ce texte par hasard. Je venais de rencontrer Lucille. Et d'un coup, ce sujet me fascinait. C'était très soudain. Mais en même temps, moi, j'avais vraiment du mal à mettre en parallèle la relation de Christ avec l'Église, de Christ avec chacun de nous, et l'attachement d'un homme, moi, avec une femme, elle. Mais maintenant, ça fait à peu près 5 ans, depuis l'été 2014, que nous avons pu vivre et développer notre relation. On s'est mariés donc en Allô, allô. Donc je disais, on s'est marié en octobre 2015 et on attend notre premier enfant pour mai 2020. Aujourd'hui, j'ai à cœur et on a à cœur de partager ce que le mariage nous a appris déjà sur nous-mêmes, mais aussi ce que le mariage nous a appris sur la relation de Christ avec son Église. Et de façon plus large, on va essayer d'étayer ça avec quelques passages de la Bible et des applications pratiques. Alors, bien sûr, ce message s'applique particulièrement au mariage, mais je suis vraiment convaincu qu'il peut être étendu à toutes les relations qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des frères et des sœurs dans l'Église. Il peut vraiment alimenter aussi les réflexions et les considérations pour le choix d'un conjoint, d'un futur conjoint. Alors, avec Lucille, on a retenu 5 points. J'en traiterai pour ma part 3 et Lucille 2. Ça fait 5. Et on alternera. Ces points ne traitent pas le sujet de façon exhaustive. Et d'ailleurs, on ne veut pas prétendre avoir une expérience complète de tout ça. Mais on s'est simplement dit, on va partager notre top 5 de 5 ans de vie commune. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire chaque chose à sa place. On le voit déjà dans le passage d'Éphésiens. Le plan du salut pour le monde, ce n'est pas le mariage. Notre espérance pour un avenir meilleur, ce n'est pas un mariage réussi. Dans notre culture moderne, souvent, le vide et l'insatisfaction que beaucoup ressentent, que ce soit au niveau du sens de la vie, de l'espoir en l'avenir, du cadre ou de l'identité propre, semble trouver un moyen d'être comblé dans l'amour romantique, dans le mariage. On ne s'attend pas seulement à ce que le mariage ou la famille nous apporte de l'amour, du soutien, de la sécurité, mais bien d'au-delà, on espère que l'être aimé prend la place de ce qui revient en fait au divin. On croit alors que quand on aura trouvé notre âme sœur, la véritable, l'unique, la plus belle, celle qu'on cherche, celle qu'on est prêt à aimer plus que toutes les autres femmes, ou hommes, respectivement, que finalement, tout ce vide qu'on ressent, tout ce qui ne va pas chez nous, eh ben, ça va être guéri. Cela transforme en fait l'âme sœur en Dieu. Et laissez-moi vous dire, aucun être humain, aucun homme, aucune femme ne peut être à la hauteur d'une telle attente. C'est donc bien sur un autre plan que l'analogie doit se faire. Les conjoints ne sont pas leurs sauveurs réciproques. On le verra dans les points suivants, mais il nous semblait vraiment pertinent de mettre le mariage à sa juste place. Chaque chose à sa place. Car si la désillusion post-lune de miel est chose courante, elle est largement intensifiée par ce phénomène où le mariage n'est pas mis à sa juste place et où l'être aimé n'est pas mis à sa juste place. Si j'attends de l'autre qu'il remplisse mon vide, je pars pour une grande aventure, pleine de désillusions. Car en réalité, en additionnant deux vides, on obtient seulement un vide encore plus grand. Mais si l'autre a déjà réglé ces grandes questions de l'existence et que je suis rempli de l'esprit et que je m'efforce à choisir un partenaire également rempli de ces certitudes, je n'aurai pas autant de craintes. Bien sûr, on ne vit pas une vie de façon pleinement débordante, en continu et dans une joie infinie. On traverse des épreuves comme Guy nous en a partagé une. Mais au moins, si on sait que la réserve pour remplir notre vide ne se situe pas chez notre partenaire, mais en Christ, voilà déjà l'assurance que chaque âme saura prendre soin de son propre vide. On a ce verset en Éphésiens 5 qui nous dit « Soyez remplis de l'Esprit-Saint ». Alors, deux choses à retenir pour ce premier point. Il y a bien des choses bonnes et très bonnes à espérer d'un mariage, mais en aucun cas qu'il ne remplisse le vide profond de notre cœur. Seul Christ est la source. Voilà pour moi une raison et un critère principal dans le choix du conjoint. Prenez garde de ne pas être le sauveur de votre partenaire. Assurez-vous plutôt qu'il remplisse son vide à la source qui ne tarit jamais. Pour les couples, quand on arrive dans une période de creux, de vide intérieur, de doute, de tristesse, les bisous, le câlin ou même le sexe avec votre partenaire ne sont pas la réponse à ce vide. Il nous faut continuer à chercher au bon endroit et à se remplir de l'Esprit-Saint.
Choisi de traiter la communication, les attentes, les frustrations et le pardon. Jacques 4, versets 1 à 3 nous dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. » Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Quand nous étions fiancés, je me rappelle que nous avions demandé au père de Fred quels sont les secrets d'un mariage heureux selon lui. Alors celui-ci nous a répondu que pour lui, les deux clés importantes étaient celles de la communication et du pardon. Et bien sûr, il nous a encouragés à les utiliser quotidiennement. J'étais personnellement rassurée en me disant que la communication était plutôt facile pour moi, car j'ai l'habitude de beaucoup parler. En effet, chaque soir, et c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai l'habitude de partager à Fred en détail ce que j'ai fait de ma journée et quelles ont été mes joies et mes peines. Mais au début de notre mariage, cela s'est avéré un peu plus difficile pour moi d'exprimer mes attentes et surtout mes frustrations bien enfouies au plus profond de moi, envers Fred et envers les autres de mon entourage. Il m'est arrivé plusieurs fois que je me mette à bouder ou à m'enfermer dans ma grotte en faisant culpabiliser Fred de mon mal-être. Souvent, il était la cause de la goutte qui faisait déborder le vase. Mais en réalité, il n'était pas responsable de toute la partie immergée de l'iceberg qui s'était accumulée en moi. Et je le mettais responsable de mon mal-être passager, car je pensais qu'il devait tout deviner sur mes attentes et sur mes sentiments envers lui et envers les autres. Or, avec le temps et les épreuves, j'ai réalisé que ce système de pensée n'était pas juste et malsain pour moi et pour notre couple. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. J'étais donc frustrée parce que je ne recevais pas et je ne me rendais pas compte que le problème venait de mes attentes et non pas de l'absence de réponse de sa part à lui. Avec beaucoup d'amour, de douceur et de patience, Fred m'a aidée à comprendre que cette spirale était nocive pour nous et que c'était plus bénéfique pour tous les deux d'exprimer mes sentiments et de faire cet effort d'introspection de quelles émotions je ressentais et pourquoi est-ce que je les ressentais. Oui, exprimer mes émotions, mes attentes, mes frustrations à l'autre, ou exprimer nos émotions, nos attentes et nos frustrations à l'autre, permet à celui qui partage notre vie de mieux nous connaître ou de mieux me connaître et aussi de mieux me comprendre dans ce que je vis et dans ce que je ressens. Donc après ce premier point sur la communication, je vais aborder le pardon. Là aussi, je me souviens que plusieurs soirs, Fred a dû laisser la lumière allumée dans notre chambre pendant de longues minutes ou plus pour que je daigne enfin arrêter de bouder et que je lui exprime ce que je ressentais et surtout que je comprenne que je devais lui demander pardon pour mon attitude orgueilleuse envers lui et envers Dieu. C'est un autre principe que nous avons essayé de vivre dans notre vie de couple, c'est celui qui se trouve dans Éphésiens 4, les versets 26 et 27. Paul nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. » Et le Seigneur nous a permis de tenir cet engagement l'un envers l'autre jusqu'à présent. Nous sommes reconnaissants pour ça. Dieu a bien sûr usé de grâce envers moi en travaillant mon cœur pendant toutes ces années pour apprendre à pardonner toujours plus rapidement à mon conjoint avant de m'endormir. J'apprends toujours et encore à me repentir de mon péché rapidement sans laisser de mauvaises herbes s'enraciner dans mon cœur avec l'aide de Dieu. Oui, dans le couple, mais aussi dans les autres relations, afin que la communication soit juste et saine, il nous faut exprimer nos attentes par des demandes claires. De même, nous devons nous efforcer, c'est-à-dire vraiment faire des efforts, afin de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère et sur nos conflits.
La vérité du péché. Le mariage, dans l'imaginaire collectif, c'est surtout une histoire d'amour. Une histoire qui commence par tomber amoureux et dont l'objectif, c'est de le rester. Mais aujourd'hui, je dirais que, de ma petite expérience, le mariage, c'est plus un défi de vérité que d'amour. Dans la proximité et l'intimité du mariage, le défi est de se rendre vulnérable à l'autre, de baisser ses barrières, de faire tomber tous les masques, de révéler ses faiblesses, et tout ça dans le but d'être vrai. Moi, quand je suis rentré dans le mariage, j'avais une image plutôt bonne de moi-même. J'avais certes quelques combats, mais je me disais, je suis plutôt facile à vivre. Laissez-moi vous lire ces deux citations. Le mariage est le révélateur impitoyable, le puissant projecteur braqué sur les plus sombres recoins de la nature humaine. Et l'autre, l'un des plus beaux cadeaux de mariage que Dieu vous ait offert est un miroir à votre taille, appelé votre conjoint. Si une carte y était jointe, il y serait écrit « Voici un tout petit quelque chose pour t'aider à découvrir à quoi tu ressembles vraiment ». Quand Adam et Ève étaient nus dans le jardin, ça ne posait un problème ni à l'un ni à l'autre, en tout cas au début. En Genèse 3, verset 7, on peut lire « Alors ils se virent tous les deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de panier. » Alors nous, on a un figuier dans le jardin. Bon, on n'a pas essayé ça, mais on peut voir que le premier réflexe après la chute, ça a été de cacher, de se cacher l'un de l'autre et de se cacher de Dieu. La vérité, soudain, subitement, était devenue très dérangeante. Oui, le mariage est vraiment un violent projecteur, un miroir de toutes mes imperfections. Et vous savez quoi ? Au début, quand le miroir me renvoyait des imperfections, je me disais « qu'est-ce qu'il est sale, ce miroir ?» Jusqu'à ce que je me rende compte que le problème, ce n'était pas le reflet, mais c'était bien mon cœur. De même, quand je regarde à Christ, il me révèle mes faiblesses. Quand je regarde dans ce miroir, il me montre mes zones d'ombre. Alors voilà simplement quelques conseils pour gérer ces situations qui, quand elles sont mises en lumière, deviennent embêtantes. Il me faut prendre conscience, reconnaître que ce problème est un problème et que l'un envers l'autre et moi-même envers Dieu, j'ai commis une faute. Il faut ensuite que je demande pardon, pardon à Dieu, pardon à l'autre. Car oui, les relations non restaurées entre les hommes nous empêchent aussi d'avoir une relation restaurée avec Dieu. Ensuite, je me repens. Je fais la démarche de repartir dans l'autre sens. Et enfin, oui, le pardon, c'est une décision. En tout cas, ça commence par une décision, mais c'est aussi un long processus. Un processus qui peut être d'autant plus long que la blessure est profonde. Mais le pardon, c'est le carburant de l'amour dans le couple et dans les relations, qui permet la croissance du couple en maturité. Et là où il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de progression. Ce que le mariage nous apprend, c'est que l'amour doit être accompagné de vérité. L'amour, sans la vérité, n'est que sentimental. Il nous réconforte et nous soutient, mais nous maintient dans le déni quant à nos défauts. La vérité sans l'amour n'est que dureté, car on ne peut plus entendre l'information donnée. Un petit exemple, je vais me coucher, il est déjà tard, et là, on me dit, ça fait 4 fois de suite, tu as oublié de sortir la poubelle, j'en ai marre. Il n'y a que de la vérité, mais ça manque un petit peu d'amour. « Ah, mon chéri, tu as de nouveau oublié de sortir la poubelle, c'est pas grave, je vais le faire à ta place. » Il y a beaucoup d'amour, mais ça ne nous met pas face à nos défauts. Il faut trouver l'équilibre. Je ne vais pas vous donner la réponse.
Alors, quatrième leçon qu'on a apprise et expérimentée dans le mariage, c'est bien sûr la sexualité. Quel vaste sujet! Et quel sujet souvent tabou aussi dans nos églises. Et pourtant, il nous semble important d'aborder bien sûr ce sujet ici, car c'est Dieu qui est l'auteur de la sexualité. Il nous a tous créés des êtres sexués dès la naissance et jusqu'à notre tombeau. Pour certains chrétiens, la sexualité est mauvaise, sale, et elle est la conséquence de la chute, c'est-à-dire qu'elle vient du malin. Eh bien non. La sexualité est bien un don de Dieu, et la Bible nous en parle dès la Genèse. Au chapitre 2, verset 24, nous pouvons lire « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Cette unité, ce « une seule chair », c'est cet amour qui se donne totalement et qui atteint une certaine apogée dans le couple au moment où le mari et la femme ne font plus qu'un, tant au niveau physique, émotionnel et spirituel. Ainsi, comme évoqué dans l'introduction, Paul cite ce même passage de Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que sa femme respecte son mari. Ce mystère est grand. Oui, nous avons appris et compris que la sexualité est bonne, pure, voulue par Dieu, belle et sainte. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est une représentation physique, une image vivante de ce que notre relation spirituelle sera avec Dieu lorsque nous serons au ciel. Dans son livre intitulé « Hourra pour le Vajayjay », Rachel Michael Dufour nous explique que la sexualité, c'est le don ultime de Dieu qui traduit son amour, qui préfigure son espérance d'être un avec nous. La sexualité nous permet de nous représenter l'unité merveilleuse promise par le Seigneur lorsque, pour l'éternité, nous ne ferons qu'un avec lui dans les cieux. Waouh ! Quelle espérance ! Quelle grandeur et quelle beauté de l'amour de Dieu, n'est-ce pas ? Le mariage nous donne d'apercevoir au travers de la sexualité ce que sera l'unité de Christ et de l'Église. Et la Bible nous donne les bonnes bases pour une sexualité épanouie dans le couple et pour comprendre pourquoi Dieu l'a créée et dans quel but. Nous aspirons tous à une sexualité satisfaisante et le Créateur de la sexualité nous donne aussi les clés pour y parvenir. La première d'entre elles est l'engagement et la confiance mutuelle. Or, quand on dissocie l'acte sexuel et l'engagement, et qu'en même temps on espère une sexualité épanouie en y plaçant tous nos espoirs sans pour autant faire des efforts dans ce sens, on obtient bien souvent des larmes et des rêves brisés. Alors que la sexualité vécue dans l'engagement demande certes plus d'efforts, mais offre bien plus en retour. Oui, c'est bien plus qu'une relation sexuelle et un orgasme, c'est l'expression suprême d'un attachement profond et tendre entre deux personnes amoureuses. C'est un acte qui implique tous les sentiments. C'est ce que nous expérimentons dans notre couple et qui nous permet de créer un lien toujours plus fort et une intimité et une unité toujours plus grande entre nous et aussi avec Dieu au centre de notre relation. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous parle de relations sexuelles et de l'union entre l'homme et la femme. Et il nous a même donné un véritable manuel sur la sexualité entre époux dans le Cantique des Cantiques. Et les conjoints, bien sûr, y sont encouragés par Dieu à s'enivrer l'un de l'autre. Alors, les buts de la sexualité sont établis par Dieu. Et la Bible, comme je viens de vous le dire, nous en donne beaucoup de versets, beaucoup d'exemples aussi. Un des buts, il y en a quatre que je vais citer, c'est le plaisir pour les deux conjoints, pour l'homme, mais aussi pour la femme. Que ta source soit bénie et fais ta joie de ta femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et c'est ce qu'on lit dans Proverbes 5, versets 18 à 19. Un autre but établi par Dieu, c'est l'accueil des enfants. Genèse 1, verset 28, en parlant de Adam et Ève, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, soumettez-la. » Un autre but de la sexualité, selon Dieu, c'est le don de soi. L'homme se donne entièrement à la femme et vice-versa. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même, la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens 7, versets 3 à 4. Un dernier but de la sexualité que nous avons trouvé ensemble et qui se trouve toujours dans Genèse 2, versets 20 à 23, c'est le partenariat. Et oui, la complémentarité, ça c'est aussi un des buts de la sexualité établie par Dieu. Et on lit dans ce passage, « L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena à l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. » Oui, chers frères et sœurs, la sexualité est bonne et voulue par Dieu. Elle a été créée pour être vécue dans un cadre d'engagement, d'intimité et de confiance, tel que le mariage.
Et pour cette dernière partie, accepter l'autre. Avant de développer ce dernier point, j'aimerais faire un retour sur ce qu'on a déjà évoqué. Éphésiens 5 nous amène à mettre en rapport d'un côté l'alliance entre Christ et son peuple et de l'autre côté l'alliance, le mariage entre un homme et une femme. À mesure que l'on étudie ces différents points, on se rend compte que le mariage n'est pas un moyen de la réalisation de soi, que le mariage n'a pas été créé pour répondre aux besoins de l'homme. Le mariage, s'il avait dû répondre aux besoins de l'homme, serait continuellement voué à l'échec. Car même si la personne idéale existe et qu'on la trouve, si on cherche assez bien, il ne faut pas oublier de prendre en compte que l'on n'épouse jamais la bonne personne. Même si au départ, il s'agit de la bonne personne, à coup sûr, je vais moi-même changer et mes besoins avec. Et parallèlement, l'autre va aussi changer. Et nous voilà déjà face au problème majeur du mariage. Il nous faut apprendre continuellement à aimer l'étranger auquel on s'est uni. Au fil du temps, on traverse des saisons qui auront un profond impact sur les deux personnes qui forment le couple. Et on doit apprendre à aimer cette personne qui est, elle aussi, en transformation continue. Ce voyage, commencé ensemble, mènera finalement à un mariage solide, tendre et joyeux, car il y a la décision ferme et solide de faire le voyage ensemble. Mais ce ne sera pas parce que le couple est parfaitement compatible. Au final, il y a des personnes qu'il ne faut pas épouser, vraiment pas. Et toutes les autres sont en quelque sorte incompatibles, soit maintenant, soit bientôt. Donc, le secret est dans l'attitude de serviteur réciproque que le couple choisit de vivre ensemble. En d'autres mots, le secret d'un mariage réussi est beaucoup moins dans le choix de la personne avant de commencer le voyage que dans l'attitude réciproque des personnes tout au long du voyage. Vous, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elles. Le secret n'est pas dans le mariage, mais le secret, c'est l'exemple de Christ qui a donné sa vie pour l'Église, pour que nous puissions être unis à lui. De même, il nous faut choisir un partenaire pour lequel nous sommes prêts à mourir et à renoncer à nos propres intérêts. Voici, selon Paul, la clé pour comprendre le mariage. L'une des idées de Dieu en concevant le mariage, c'était qu'il représente la relation entre Christ et son peuple, racheté à jamais. En somme, fais pour ton conjoint ce que Dieu a fait pour toi par Jésus. Le reste suivra. On voit que le secret de l'évangile de Jésus et le mariage s'expliquent l'un par l'autre. Quand Dieu a inventé le mariage, il pensait déjà à l'œuvre salvatrice de Jésus. Voilà aussi pourquoi, bien souvent, le mariage est douloureux et pourtant si merveilleux. C'est qu'il reflète l'Évangile, qui est en même temps douloureux et merveilleux. Voici le message de l'Évangile. Nous sommes bien plus pécheurs et imparfaits que nous n'oserions l'avouer. C'est douloureux. Mais nous sommes également bien plus aimés et acceptés en Jésus que nous n'oserions l'espérer. C'est merveilleux. Au travers du mariage, même le meilleur partenaire nous poussera à tourner les yeux vers le seul époux parfait, Christ. Lui qui a une parfaite mesure d'amour et de vérité, qui se démarque en même temps par une honnêteté absolue concernant notre identité et un engagement complet, il nous permet, dans sa miséricorde, d'affronter la vérité de notre péché. Voilà pour ces 5 leçons imprises en 5 ans. On a aussi particulièrement 4 livres qu'on aime beaucoup et qui nous ont aidés à mettre des mots sur ce qu'on a pu vivre. Donc je vous les laisse. Si jamais vous avez plus de questions, vous pouvez aussi venir nous voir après. Et j'aimerais simplement clôturer par la prière. Oui, Seigneur. Le mariage, tu l'avais pensé afin qu'il nous pousse à tourner les regards vers toi et ton plan merveilleux de nous racheter alors que nous étions loin de toi, Seigneur. Et oui, je veux simplement te dire merci. Amen.